Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd, fa aujourd'hui le 9 du mois de Al-Muharram de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 24e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam Al-Mubaddal Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal Al-Shaybani rahimahullah ta'ala. J'ai sauté le chapitre ayant pour titre « Nous n'attestons de personne parmi les musulmans qu'il ira au paradis ou en enfer ». Je l'ai sauté pour le cours d'aujourd'hui pour l'expliquer au cours de la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala. Donc nous passons directement à la page 133 où le chapitre a été intitulé « Le caractère législatif de faire appliquer les peines légales ». Ceci comme vous le voyez car ce chapitre est en lien direct avec le chapitre précédent. Il dit, rahimahullah ta'ala, dans le sens, lapider une personne qui a déjà une fois contracté un mariage dans sa vie, puis fornique, constitue un fait légitime, et ce, lorsque ce dernier reconnaît son acte, ou qu'une preuve évidente est fournie. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lapida, ainsi que les imams bien guidés. Pourquoi l'imam Ahmed a rappelé ce passage ici, dans les fondements de la sunna, c'est-à-dire le caractère législatif de faire appliquer les peines légales, et en particulier la peine de celui qui aura forniqué. Pourquoi ? Pourquoi certains parmi les imams de la sunna, dans leur traité sur la croyance des gens de la sunna, rappellent l'affaire de Al-Mas'h Al-Al-Khuffayn, l'essuyage sur les chaussettes. Parce que certaines personnes renient le caractère légitime de l'essuyage sur les chaussettes, comme par exemple Al-Shi'a. Donc, si tu veux faire partie des gens de la Sunna et suivre les fondements des gens de la Sunna, ceci passe par ces affaires qui sont des affaires qui ne sont pas des affaires qui rentre dans les fondements, mais, c'est-à-dire dans les fondements de la foi, des fondements de la croyance, mais rentre dans les fondements de la sunna. Pourquoi ? Parce que certaines personnes ont contredit les gens de la sunna et se sont attachées à cela. On dit que l'essuyage sur les chaussettes n'existe pas. On dit que telle et telle parmi les peines légales n'existe pas. N'ont aucun fondement dans notre religion. Comme par exemple ici, Al-Khawarij. Al-Khawarij ont renié le caractère légitime de cette peine qui est la lapidation, comme d'autres peines. Pourquoi ? Car Al-Khawarij, comme je l'ai déjà évoqué précédemment, renie la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, en se basant sur plusieurs de leurs bases, que nous allons voir aussi dans le cours d'aujourd'hui, qui est une base qui est proche de celle des Shi'a al-Rafida, qui est, pour revenir à une règle que j'ai évoquée précédemment, hein, si vous vous rappelez, At-ta'nu fil-naqili, ta'nun fil-manqul, c'est-à-dire, critiquer celui qui rapporte l'information est une critique de l'information même. Lorsque le Khawarij ont excommunié, c'est-à-dire jugé de mécréant certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont eux, radiallahu anhum, qui nous rapportent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cela, ils ont renié certains de ces hadiths qui ont été rapportés par le biais de ces compagnons. De même que Ash-Shi'a, lorsqu'ils ont excommunié, jugé de mécréance, la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont rentrés par cette porte pour repousser, refuser la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Al-Khawarij ne reconnaissent pas le caractère légitime de la lapidation et d'autres peines légales. Comme cela, d'autres personnes que nous voyons de nos jours qui ont été éduquées sur des fondements de l'Khawarij, parmi eux les frères musulmans, comme vous le savez, comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, le fait que les frères musulmans, Al-Ikhwan, Al-Muslimoun, ces derniers, ont bâti leur voie sur les fondements de Al-Khawarij et de As-Soufiyya. Al-Khawarij et As-Soufiyya. Et autre que eux, c'est pour cela que vous trouvez plusieurs personnes qui s'apparentent à ce groupe, ou certains qui ne s'apparentent pas à ce groupe, mais le fait que leurs fondements soient les mêmes que ce groupe-là ne change pas la réalité de leur personne et de leur voix, qui est qu'ils sont sur la voie de ce groupe des frères musulmans de manière plus large et plus vaste, de l'Khawarij et de Soufia et autres, ces derniers qui donc refusent la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Al-Sheikh Rabi'a Hafidahullah de dire, c'est la peine légale du fornicateur, à savoir la lapidation. Dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, la peine légale du fornicateur est la lapidation. Tout fornicateur, non. Sans condition, non, comme nous allons le voir ici. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lapida une femme, Al-Ghamidiyya, ainsi que Ma'iz. Ensuite, le traducteur a rajouté la Juhaniya. Le mohim, cette parole-là, la Juhaniya ne figure pas dans la base, donc vous pouvez la mettre entre parenthèses et mettre une note sur le fait que ceci est un rajout du traducteur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lapida une femme, Al-Ghamidiyya, ainsi que Ma'iz. L'histoire de Al-Ghamidiyya et de Ma'iz, je le rapporte à la fin de l'explication, Inch'Allah ta'ala, qui se trouve dans les deux recueils authentiques des hadiths, celui de l'imam muslim et celui de l'imam al-Bukhari. Puis il dit, et les deux juifs qui avaient forniqué. Il dit, l'imam Ahmad ici, lapider une personne qui a déjà une fois contracté un mariage dans sa vie, puis fornique. Ceci est la définition de ce qu'on appelle al-muhsan. Al-muhsan, en arabe, c'est la personne qui a déjà contracté un contrat de mariage valide, donc qui s'est déjà marié avec un contrat de mariage qui est valide, et qui a pratiqué donc le rapport. Donc quand on dit qu'il a déjà contracté un contrat de mariage, c'est-à-dire qu'il a déjà eu des relations intimes avec une femme sous un contrat de mariage valide, puis qui aura forniqué. Cette personne-là est la personne qui est appelée muhsan. À l'inverse de celui qui ne s'est pas marié. Celui qui ne s'est pas marié, cette personne-là, on ne l'appelle pas muhsan. Cette personne-là, donc, ne rentrera pas dans ce jugement-là. C'est-à-dire que cette personne-là qui n'est pas muhsan, donc qui n'a pas contracté un contrat de mariage, eu un rapport intime avec sa femme sous un contrat de mariage qui est valide, puis après cela qu'il ait forniqué lors de ce contrat de mariage ou après avoir divorcé de cette femme, ceci ne nous intéresse pas ici pour cette définition, qui a contracté un jour dans sa vie, qui a goûté à cette chose-là, le fait d'avoir été marié et d'avoir eu des relations dans le licite avec une femme, même si cette personne-là, au moment d'avoir cette fornication qu'Allah, de commettre cet acte de fornication qu'Allah nous en préserve, est divorcée ou pas, soit encore avec cette femme ou pas. A l'inverse d'une personne qui ne se sera jamais mariée, qui n'aura pas goûté au plaisir du rapport intime avec une femme dans le halal. Cette personne-là, on ne lui appliquera pas cette peine légale qui est la lapidation, mais plutôt, on lui appliquera une autre peine légale. Qui est... Combien ? 100 coups de fouet. Ahsantoum. 100 coups de fouet. Pour la personne qui n'est pas muhsan. Donc, comme je l'expliquais, qu'est-ce que Al-Muhsan ici ? Cette personne qui n'est pas Muhsan, donc qui aura commis la fornication, la peine légale sera de lui infliger 100 coups de fouet, à l'inverse de celle qui est Muhsan, qui sera la lapidation. Il dit, Hafidahullah, c'est la loi d'Allah prescrite dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Attendez, on va y arriver à ce que dit la Torah et l'Évangile. En réponse à certaines personnes, malheureusement certains parmi les personnes qui s'apparentent à l'islam et de manière plus large à beaucoup de détracteurs de l'islam qui disent que l'islam est une religion barbare, l'islam est une religion ceci et cela, concernant certains de ces textes qui font entièrement partie de la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est bon de le rappeler ici, entre guillemets, cette peine légale que nous évoquons ici, comme n'importe lequel des autres peines légales, c'est à tout à chacun de l'appliquer. À qui ? Au gouverneur des musulmans. Et si ce gouverneur des musulmans ne l'applique pas, il décide de ne pas l'appliquer, que fait-on ? Ceci le regarde. Comme nous l'avons vu dans d'autres hadiths précédemment, demandez-leur votre, donnez-leur leur droit au gouverneur des musulmans et demandez à Allah le vôtre. Si cette personne n'applique pas la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu n'es pas demandé, tu ne seras pas questionné sur ce qu'aura fait le gouverneur des musulmans. Toi, ce qui t'incombe, c'est d'apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de savoir ce qu'il demande de toi. Azza wa jal. Ce qu'il veut de toi, ce qu'il te demande. Il dit donc ici, parmi les lois que la charia islamique a reprises, mettez cette parole-là reprise entre guillemets ou entre crochets, car c'est une mauvaise traduction. Reprise. On ne dit pas que la charia islamique a reprise et approuvé. C'est-à-dire qu'elle l'a reprise d'où ? Ceci est la religion d'Allah, Azza wa Jal. On dira ici, dans une traduction meilleure, Inch'Allah ta'ala, parmi les lois à propos desquelles la charia islamique a été en concordance avec les lois précédentes et a approuvé, car le terme ici utilisé en arabe est « wafaqat », donc a été en concordance et non à reprise. On ne dit pas que la charia islamique a reprise une loi. Non, ceci ne se dit pas. Parmi les lois que la charia islamique a, dont ces lois dont elle a été en concordance avec les lois passées et approuvées, il y a la lapidation. Elle est légiférée dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Il y a un verset révélé dont l'expression est abrogée. Abrogée, on a déjà parlé de l'abrogeant et de l'abrogé, si vous vous rappelez. An-nasikh wal-mansour. C'est-à-dire que certains versets, certaines règles légiférées peuvent avoir été abrogées. Car Allah, tabaraka wa ta'ala, dans sa grande sagesse, a fait descendre les législations, non en une seule fois, mais par paliers. Et ceci sur le temps, les années de la révélation, les 23 années de la révélation sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, plutôt ce sont nous, ses serviteurs, qui sommes interrogés sur ce que nous faisons. Et ceci est donc fait partie de la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous trouverons certains versets qui sont abrogés dans leur sens. C'est-à-dire que le verset, tu peux toujours le lire dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais le jugement que contient ce verset est abrogé, c'est-à-dire que les musulmans ne l'appliquent pas. Certains versets ont été abrogés dans leur lecture comme dans leur jugement, c'est-à-dire qu'on ne le trouve plus dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faisait partie des versets qui étaient récités par les premiers, par les compagnons. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam récitaient ce verset, il a été révélé, mais il a été abrogé. C'est-à-dire que ce verset n'est plus récité et son jugement n'est plus appliqué. Et certains versets ont été abrogés dans leur lecture, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus récités, on ne le trouve plus dans le Coran, mais son jugement est toujours appliqué. Et bien sûr, ceci est une science profonde, la science de l'abrogeant et de l'abrogé. Il demande à ce que la personne qui parle à propos de cela est une science profonde du Coran, des causes de la révélation, des dates de la révélation, de même que de la sunna, des dates de la sunna, c'est-à-dire à quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle parole, pour savoir si cette parole précède celle-là, ou plutôt c'est celle-ci qui précède l'autre, et autre que cela. C'est un sujet qui est vraiment très large, que j'avais déjà évoqué rapidement précédemment, et qu'on aura peut-être l'occasion de développer un peu plus. Et ici en l'occurrence, le verset qui traite de la lapidation est un verset qui fait partie de ceux qui ont été abrogés dans leur récitation, mais dont le jugement reste. Comment la récitation a été abrogée, mais le jugement reste. Comment savons-nous cela ? Par la sunna. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce que rapportent les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il dit, Cheikh Hafidhahullah, il y a un verset révélé dont l'expression est abrogée, c'est-à-dire sa lecture est abrogée. Et dont la loi est restée en vigueur. Son jugement, le jugement qu'il contient, reste en vigueur, il est toujours appliqué. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, en a parlé en disant, Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité et il lui a révélé le livre. Parmi ce qu'on lui a révélé, il y a le verset de la lapidation. Nous l'avons lu, mémorisé, compris et gardé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lapida et nous fîmes après lui. C'est-à-dire nous avons lapidé après lui. Donc ceci est rapporté par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Je crains qu'une personne vienne dire après. Nous ne trouvons pas la lapidation dans le Coran. Elle va donc s'égarer pour avoir délaissé l'une des obligations d'Allah révélée dans le Coran. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Puis il dit, donc Omar, radiallahu anhu, qui a entendu ce verset et qui sait que ce verset a été abrogé, dont sa récitation a été abrogée, mais que son jugement est toujours effectif, il dit... La peine légale du fornicateur, homme ou femme, c'est la lapidation. Donc le fornicateur, comme on l'a dit, muhsan, c'est la lapidation. Lorsqu'il ou elle avoue, ou qu'il y a une preuve évidente, ou qu'il y a une grossesse. Ici, trois choses que nous allons évoquer, que nous allons expliquer. Savez-vous dans quelle sourate se trouvait ce verset de la lapidation? Est-ce que quelqu'un sait dans quelle sourate se trouvait le verset de la lapidation? Ce verset de la lapidation se trouvait dans la sourate de Al-Ahzab, les coalisés, qui est la sourate numéro combien? 33, Ahsantum. Et il est rapporté avec une chaîne de transmission authentique par Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, qui disait que lorsqu'on lui posait la question combien de. Lorsqu'il posait la question à certains parmi At-Tabi'in, combien se trouve de versets dans sourate Al-Baqarah? Et combien se trouve de versets dans Sourate Al-Ahzab? Et il disait par la suite, savez-vous qu'à l'époque, la Sourate Al-Ahzab, la Sourate de l'Ahzab des coalisés, était proche dans son nombre de versets de Sourate Al-Baqarah. Et beaucoup de ces versets ont été abrogés dans leur récitation. Et ce hadith est rapporté dans plusieurs recueils, comme dans Al-Mustadrak de l'Hakim et autres, et Al-Imam Al-Albani, rahimahullah, juge que sa chaîne de transmission est authentique. Al-Imam al-Barbahari, rahimahullah, dans son livre Sharh al-Sunnah, qui est un des livres de référence chez les gens de la Sunnah, qui explique la voie des gens de la Sunnah dans leurs croyances et dans leur méthodologie, rapporte ce point, le sujet qui traite de cette peine légale, la lapidation, juste après avoir parlé de la croyance des gens de la Sunnah concernant les gouverneurs. Tout ce que nous avons étudié ici, ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed, l'imam al-Barbahari le rapporte aussi et fait suivre ces chapitres-là par ce point qui traite de la lapidation et de son caractère légiféré et effectif, encore une fois, juste après avoir évoqué les fondements des gens de la Sunna concernant le gouverneur. Et ceci n'est pas anodin, comme je l'ai dit. Le gouverneur, c'est lui qui applique les peines légales, lui uniquement. À l'inverse de Al-Khawarij. Et bien sûr, nous évoquons aussi ce point, la lapidation et les peines légales de manière générale, car Al-Khawarij sont ceux qui ont rejeté, ou font partie de ceux qui ont rejeté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne voient pas le caractère légitime de l'application de ces peines. Ici donc, il dit, Hafidahullah, l'homme est lapidé par la preuve évidente. La preuve évidente. Et il va détailler ici, Shir, ce qu'est la preuve évidente. Ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas simplement de voir une personne allongée sur une autre, qu'Allah nous en préserve, dans un endroit. Un homme allongé sur une femme, dans un endroit. Voir quelques mouvements. Ce n'est pas ça, la preuve évidente. Qu'est-ce que la preuve évidente, ayyuha al-ikhwa? Pour répondre à ceux qui disent que cette sharia est une sharia qui est barbare et qui est, qui est une chose... comme ils aiment à le rappeler dans nos pays qui appliquent cette sharia, que n'importe qui est lapidé tous les quatre matins. Écoutez, l'homme est lapidé par la preuve évidente de quatre témoins. Par la preuve évidente de quatre témoins. C'est-à-dire que quatre témoins ont vu cette preuve évidente. Quatre témoins attestent avoir vu cette preuve évidente. Ce n'est pas même une seule personne qui aurait vu la preuve évidente. Quatre témoins. Qui aurait vu cette preuve évidente. Quelle est cette preuve évidente? Shir va nous le dire ici. S'il y a trois témoins qui témoignent qu'il a forniqué, qu'une personne a forniqué, on leur fait subir la peine légale de fausse accusation à la fornication. Ici, on vient sur une autre peine légale qui est la peine qu'on appelle al-qathf. Al-qathf, qui est la peine appliquée à celui qui aura accusé une personne à tort d'une chose. De fornication ici, en l'occurrence. On va en reparler aussi ici. La peine, simplement, de al-qathf, c'est 80 coups de fouet. 80 coups de fouet. De même que le témoignage de cette personne qui aura accusé à tort ne sera jamais accepté et qu'il fera partie des menteurs et qu'il fera partie des pervers. Il sera jugé comme une personne perverse. Son témoignage ne sera plus jamais accepté et il sera fouetté 80 coups de fouet pour avoir accusé de fornication à tort une personne. C'est-à-dire même si trois personnes attestent d'avoir vu cette preuve-là, ces trois personnes sont accusées de cette chose-là, elle passe, donc la fausse accusation, et on leur applique la peine légale. Je vais revenir en aparté ici sur cette peine légale et sur ce jugement de al-qathf. Donc ici, on leur fait subir la peine légale de fausse accusation à la fornication. Il doit nécessairement y avoir quatre témoins témoignant d'avoir vu tel homme avoir des rapports sexuels avec telle femme, qu'ils ont vu le bâton à collir dans la boîte à collir. Regardez. Ils ont vu, comme on dit en arabe, al-mail fil mahkala. Le bâton à collir, al-mail, c'est-à-dire, vous voyez la boîte à kuhl, ce qu'on appelle le kuhl. Vous voyez un petit peu les petites boîtes qui se vendent comme ça. Généralement, il y a un petit bâton, on dévisse comme ça, il y a un petit bâton. Ce bâton-là, c'est ce qu'on appelle al-mail. Et cette boîte-là, c'est le mahkala. Donc, le bâton à collir dans la boîte à collir. Vous voyez l'image. C'est une image propre pour parler de cet acte. Si ces quatre témoins n'ont pas vu cette chose-là, est-ce que c'est quelque chose quand on s'imagine ce rapport intime, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à voir? De voir effectivement le bâton à collir rentrer dans la boîte à collir? Non. Donc ce n'est pas simplement de voir une personne, même une personne nue, allongée sur une autre personne nue. On n'a pas vu cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose de très pointu et de très minutieux. Donc, qu'ils ont vu le bâton à collir dans la boîte à collir, ces quatre témoins. Le témoignage ne pourra être accepté d'eux que s'ils sont quatre et qu'ils ont vu avec certitude. Cela protège le sang et la dignité des gens. Cela protège le sang et la dignité des gens. Et dans le sens approximatif du verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit: pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation quatre témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Pour revenir rapidement à al-qasf, l'accusation de fornication ou la fausse accusation, al-qasf, c'est l'accusation en soi. Donc une personne qui aura fait cela, qui aura accusé une autre personne de fornication, Ibn Rushd rahimahullah, parmi les grands savants qui étaient sur le madhab de l'imam Malik, qui est mort au 6e siècle de l'Hégire, dans son livre, qui est un livre connu et reconnu qu'on appelle Bidayatul Mujtahid, est un livre dans la jurisprudence, dans le fiqh, qui est connu et reconnu de tout le monde. C'était même jusqu'à il y a quelques années celui qui était enseigné à l'université islamique de Médine, qui traite de al-fiqh selon les avis des quatre écoles. Dans son livre Bidayat al-Mujtahid, il dit, Ibn Rushd rahimahullah, que les savants sont d'accord sur le fait que pour que la peine applicable à la personne qui aura accusé une autre personne de fornication, il faut qu'il se retrouve dans cette personne qui est accusée cinq choses, cinq caractéristiques. C'est-à-dire que si une personne accuse une autre de fornication, si la personne qui est accusée de fornication, on ne retrouve pas ces cinq caractéristiques en elle, eh bien cette personne qui l'aura accusée ne sera pas soumise à la peine légale. Quelles sont ces cinq caractéristiques? Il dit, al-islam, Donc qu'il soit musulman, cette personne accusée soit une personne musulmane. Al-hurriya, que ce soit quelqu'un qui soit libre et non un esclave. Al-boulour, c'est-à-dire quelqu'un qui sera pubère. La quatrième, faites bien attention à celle-ci, al-afaf, la chasteté. C'est-à-dire que cette personne qui est accusée, si elle n'est pas chaste, si par exemple c'est quelqu'un qui est un pervers notoire, qui est quelqu'un qui fait de manière notoire la fornication, qu'il y a peut-être même une vidéo si, où il y a des choses qui montrent cela, eh bien cette personne-là, on n'applique pas. Si une personne a accusé cette personne-là d'être un fornicateur, un pervers, eh bien la peine légale ne lui sera pas appliquée. Ceci selon l'avis de l'ensemble des savants, comme l'a dit ici Ibn Rushd. On ne dit pas que, ici il a dit « ittafaqu », ils sont d'accord, les savants, sur cela. Et la cinquième de ces conditions est qu'il y ait avec cette personne-là qui a fait la fornication, qui est accusé d'avoir fait la fornication, la chose par laquelle il peut faire la fornication. C'est-à-dire en gros, qu'il ait un sexe. Vous comprenez? Parce que certaines personnes qui peuvent être accusées sont des personnes qui sont nées sans sexe ou alors qui ont été émasculées et autres. Ceci est important, en particulier à certaines périodes où certaines personnes, parmi les gens de l'fitan, des troubles, imputent certaines paroles et veulent faire appliquer des sentences religieuses sans droit à certaines personnes. Qu'Allah nous en préserve. Il dit ensuite, Al-Shir, Hafidahullah, Sheikh Rabi', il dit, ou alors que celui qui est, donc, soit quatre témoins qui ont vu le bâton à collier rentrer dans la boîte à collier. Ou alors que celui qui a forniqué reconnaisse son acte, comme l'ont fait Ma'iz et comme l'a fait aussi Al-Ramidiyya. C'est-à-dire, si une personne vient et reconnaît avoir appliqué la fornication, avoir commis, pardon, la fornication, cette personne-là, la peine lui sera appliquée, même s'il n'y a pas eu quatre témoins qui jugent de cela. Ou que la grossesse paraisse pour le cas de la femme. Si la grossesse paraît, cela constitue le meilleur témoin. Ensuite, cher de dire, ce qui est à retenir, c'est que on ne lapide que lorsqu'il y a une preuve évidente, soit quatre témoins, comme nous l'avons dit, soit le fornicateur avoue avoir commis l'acte, qu'il soit un homme ou une femme, soit la grossesse paraît pour le cas de la femme. Cela constitue la peine du fornicateur qui est muhsan. Le muhsan désigne donc la personne ayant contracté un mariage avec une femme de manière légale, puis ayant eu des rapports sexuels avec cette épouse. Il dit ensuite, si c'est un esclave, ceci est une règle assez importante que l'on rappelle en marge du cours d'aujourd'hui. Il dit, Al-Shir, Havidallah, si c'est un ou une esclave et qu'il s'est déjà marié une fois légalement, sa peine légale équivaut à la moitié de la peine de celui qui est libre. C'est le fouet, 50 coups de fouet, compte tenu du fait que la lapidation ne peut être subdivisée en deux et que la peine légale de celui qui est libre, lorsqu'il n'est pas muhsan, homme ou femme, est la suivante. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier. La peine légale de l'esclave est donc la moitié de la peine corporelle de l'homme libre, 50 coups de fouet. On ne lapide pas l'esclave, même s'il se marie légalement avec un mariage correctement célébré, il ne mérite que la moitié de la peine de l'homme libre, 50 coups de fouet. Ceci est un jugement en marge du cours d'aujourd'hui. Revenons ici à deux points que j'ai laissés sciemment pendant l'explication de ce fondement. Le premier de ces points, la parole où Ashir Rabi' qui nous dit donc, c'est la loi d'Allah prescrite dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Il dit donc, Havidahullah, c'est la loi d'Allah prescrite dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Rapprochez-vous s'il vous plaît les frères. Non. Attends, je finis, on va faire comme d'habitude. Nous voyons que dans la Torah, en tout cas, ce qui reste entre les mains des gens aujourd'hui qui est appelé chez eux la Torah, et nous le savons que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ce qu'on appelle la Bible. Donc la Bible réunit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est la Torah, le Nouveau Testament est l'Évangile. Selon leurs appellations, nous savons que ces livres sont des livres qui ont subi altération de la part des mains de ces personnes, les gens du livre. Mais dans ce qu'il reste de ces livres, aujourd'hui, nous voyons que dans l'Ancien Testament, ce qui sera appelé pour eux donc la Torah, dans le livre qu'on appelle le Deutéronome, en arabe on appelle ça Sifru At-Tathnir, le Deutéronome, nous voyons cette parole. Quant à ce prophète ou visionnaire, il sera mis à mort. Il faut savoir que, avant de lire cela, il faut savoir que dans la Torah, qui est entre les mains des gens aujourd'hui, nous voyons que la peine qui était appliquée par les juifs à l'époque était bien souvent la lapidation. Pour maintes et maintes choses, ce n'est pas simplement pour la fornication, mais pour maintes et maintes choses, ils lapidaient les gens. Écoutez ici donc, bien sûr en réponse à ceux qui jugent la religion musulmane de religion barbare, parfois nous trouvons certaines personnes parmi les musulmans qui sont même pris de ces ambiguïtés-là. Et de manière plus large, comme je l'ai dit, plus vaste, beaucoup de ces gens qui jugent la religion de l'islam comme étant barbare et disent que le christianisme, à l'inverse, de même que le judaïsme, sont des religions de miséricorde. Écoutez. Quant à ce prophète ou visionnaire, il sera mis à mort pour avoir prêché la révolte contre le Seigneur votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a racheté de la maison de servitude. Cet homme voulait t'entraîner hors du chemin que le Seigneur, ton Dieu, t'a prescrit de suivre. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Si ton frère, écoutez, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme que tu sers contre ton cœur, ou ton prochain, qui est comme toi-même, viennent en cachette te faire cette proposition, allons servir d'autres dieux, allons commettre de l'association. Ces dieux que ni toi ni ton père vous ne connaissez, parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent d'un bout à l'autre du pays, tu n'accepteras pas, tu ne l'écouteras pas, tu ne t'attendriras pas sur lui, tu n'auras pas de pitié, tu ne le défendras pas. Au contraire, tu dois absolument le tuer. La parole dans le Deutéronome, l'Ancien Testament. Cette personne-là qui t'appelle à l'association, ceci était le jugement dans l'Ancien Testament. Au contraire, tu dois absolument le tuer. Ta main sera la première pour la mettre à mort. Donc toi qui as été appelé à cela, même si c'est ton père, ta mère, ton fils, ton frère et autres, ta main sera la première pour le mettre à mort et la main de tout le peuple suivra. Tu le lapideras et il mourra pour avoir cherché à t'entraîner loin du Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Jusqu'à la fin de cette parole. Ceci dans le chapitre 13, dans le chapitre 17, pardon, du Deutéronome aussi. Il est dit, les procédures judiciaires, s'il se trouve au milieu de toi, dans l'une des villes que ton Seigneur, ton Dieu te donne, un homme ou une femme qui fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, ton Dieu, en transgressant son alliance, et qui s'en va à servir d'autres dieux, et se prosterner devant eux, devant le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux, et que je n'ai pas ordonné, si l'on te communique cette information, ou si tu l'entends dire, tu feras des recherches approfondies. Une fois vraiment établi le fait de cette abomination, que cette abomination a été commise en Israël, je lis donc comme il est rapporté, encore une fois, comme vous le savez, comme je l'ai évoqué précédemment, c'est la traduction œcuménique de la Bible que je prends ici en base. C'est une traduction qui est utilisée dans les études des études religieuses chez les juifs et les chrétiens. Traduction œcuménique de la Bible. Il dit, tu amèneras aux portes de ta ville l'homme ou la femme qui ont commis ce méfait. L'homme ou la femme, tu les lapideras et ils mourront. C'est le jugement dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, donc vous avez entendu que la lapidation était une chose qui était pratiquée, et ceci pour de nombreux méfaits. Ici, dans l'Évangile selon Jean, donc dans ce qu'ils appellent l'Évangile, donc le Nouveau Testament, nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 8, cette parole. Il dit « Et Jésus gagna le mont des Oliviers. » Puis, après cela, on vint le voir et on lui dit « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là, et toi, qu'en dis-tu ?» Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme ils continuèrent à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » C'est une expression même qui est connue aujourd'hui. Il lui jette la première pierre. Pourquoi ? Parce que c'était la peine légale, la lapidation. Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là au milieu du cercle, donc celle qui était accusée de fornication, dont il voulait appliquer la peine légale, la lapidation, Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont donc-ils ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Ici, nous voyons dans ce texte, en aucune manière, cette personne qui est évoquée sous le nom de Jésus ici, ne pas reconnaître le fait que la lapidation était la peine qui était appliquée à ces gens-là. À aucun moment, il ne reconnut pas le fait que la lapidation était bien la peine appliquée aux fornicateurs. Mais plutôt, il décida de pardonner à cette personne-là et appela les gens à la pardonner. Et comme vous l'avez entendu ici, donc ça, ce sont des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je termine ici le cours d'aujourd'hui, simplement en vous rappelant rapidement l'histoire de El-Ramidiyya et l'histoire de Ma'iz, radiyallahu anhumain. Dans les deux recueils authentiques, il est rapporté ces deux histoires, l'histoire de El-Ramidiyya et l'histoire de Ma'iz. Cette personne-là, cette femme El-Ramidiyya, qui est une histoire qui est arrivée après l'histoire de Ma'iz. Cette femme-là, El-Ramidiyya, est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs versions qui sont rapportées. Elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit au messager d'Allah, j'ai certes fait la fornication. Rapprochez-vous s'il vous plaît, les frères, rapprochez-vous pour laisser de la place. Revenez un petit peu en avant. J'ai certes commis la fornication, purifie-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la repoussa. Lui dit, repars. Le lendemain, elle est venue le voir et elle lui a dit, pourquoi m'as-tu repoussé au messager d'Allah? Peut-être que tu as fait cela comme tu l'as fait avec Ma'iz. Voyons que c'est une histoire qui a suivi l'histoire de Ma'iz que je vais évoquer ici aussi rapidement. Et elle dit, Wallahi, je suis enceinte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la repousser encore une fois et de lui dire repars jusqu'à avoir enfanté, jusqu'à avoir accouché. Elle revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir accouché avec l'enfant dans les mains. Et elle revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il la purifie. Pour qu'il la purifie comment ? En lui appliquant la peine légale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la repousser encore une fois et de lui dire repars jusqu'à l'avoir allaité et d'avoir parachevé son allaitement. Elle repartit, elle revint après avoir allaité et parachevé son allaitement et elle revint avec l'enfant ayant un bout de pain dans les mains et donc pour montrer que cet enfant se passait donc de son lait et mangeait le pain. Et elle lui dit, ô prophète d'Allah, cet enfant, j'ai certes parachevé son allaitement. Il mange aujourd'hui de la nourriture. Elle donna donc l'enfant à l'un des hommes parmi les musulmans. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de faire un trou dans le sol jusqu'à et de la mettre dans ce trou-là jusqu'à sa poitrine. Puis elle demanda aux gens de la lapider. Ici, nous avons dans ce hadith plusieurs règles que nous avons évoquées ici concernant la lapidation. Ce n'est pas une chose qui est faite n'importe comment. Donc, comme on l'a dit, quatre témoins qui ont vu vraiment avec minutie le bâton qui est rentré dans la boîte à collire, le bâton à collire, ou alors une personne qui aura avoué avoir commis la fornication, comme ici le Ramidia, ou une personne ayant été engrossée, une personne qui vient avec une grossesse apparente, comme ici dans l'histoire de le Ramidia. Ici, l'histoire de Maïs, quelle est-elle? Une histoire qui est très importante, l'histoire de Maïs. Maïs ibn Malik, radiyallahu anhu, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour et lui a dit: purifie-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: prends garde à toi, retourne et demande pardon à Allah azza wa jal et fais at-tawba, repens-toi à Allah tabaraka wa ta'ala. Il revint, il retourna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: retourne, repars. Il repartit non loin. Puis il revint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, purifie-moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répéter la même chose: prends garde, reviens, demande pardon à Allah azza wa jal et repends-toi. Ce qu'il fit, non loin. Puis il revint. Et à la quatrième fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit cette chose-là et il fit cette chose-là, il lui dit sallallahu alayhi wa sallam: à propos de quoi dois-je te purifier? Et Maïs, radiyallahu anhu, de dire: de la fornication. C'est-à-dire qu'il a commis la fornication, il avoue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites bien attention à cela, il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander, il y a plusieurs versions, ici j'ai choisi cette version pour ces enseignements que nous retirons ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses proches, aux gens de son peuple: est-ce qu'il est fou? Les gens lui ont dit qu'il n'était pas fou. Il demanda aussi: est-ce qu'il a bu de l'alcool? Pour qu'il vienne me demander cela, est-ce qu'il a bu de l'alcool? Les gens lui ont dit qu'il ne buvait pas d'alcool. Et qu'ils n'ont pas trouvé, et regardez, et qu'ils n'ont pas trouvé dans cette version, l'odeur de l'alcool. C'est-à-dire qu'ils ont été même jusqu'à sentir son haleine pour savoir si cette personne n'avait pas bu de l'alcool et était enivré au moment où il demanda cette chose-là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda encore une fois: est-ce que tu as forniqué? Et il répondit: oui. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de le lapider. Puis les gens, lorsque certaines personnes parlèrent à propos de Maïs, comme ils parlèrent à propos de le Ramidia dans certaines versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certaines personnes parlèrent, c'est-à-dire divergèrent à propos de Maïs. Est-ce que c'est une personne de bien ou une personne de mal? Il est venu ayant forniqué, ou c'est une personne de bien? Oui, mais il a avoué pour être purifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui: il a certes fait un repentir que si elle avait été divisé, que si ce repentir, pardon, avait été divisé et donné, divisé et distribué à ma communauté, elle leur aurait suffi. Allahu Akbar. Ici, nous profitons ici, donc, pour le cours d'aujourd'hui, nous profitons aussi ici, par rapport à la croyance de l'Khawarij wa al-Takfiriyoun, qui n'accepte pas les erreurs de la part des musulmans et qui s'empressent de les excommunier et de les juger de mécréants, ceci même s'ils sont tombés dans de grands péchés. Et malheureusement, cette croyance et cette voix s'est retrouvée chez les gens de la masse qui, lorsqu'on leur parle de la fornication, ils voient cela plus grand que l'association à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et pour certains d'entre eux, lorsqu'une personne a forniqué, c'est une personne qui est presque sortie de l'islam. Lorsqu'on leur parle du meurtre, qui est sans aucun doute un grand péché, ils disent: le musulman ne peut pas tuer son frère musulman, celui qui tue son frère musulman, ce n'est plus un musulman. Et donc cette croyance, qui est la croyance de l'Khawarij, est venue chez les gens de la masse au point qu'ils excommunient, ils jugent de mécréants des musulmans qui sont tombés dans des grands péchés. Ceci est la voix de l'Khawarij. Regardez ici Maïs, qui a commis ce grand péché. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché par tous les moyens à l'excuser. Est-ce qu'il est fou? Si ça, ce n'est pas l'excuse de l'ignorance, ce n'est pas la recherche de l'excuse pour ne pas appliquer le jugement à une personne. Qu'est-ce que cela est? Ces gens-là qui refusent l'excuse de l'ignorance. Cette personne-là est ignorant, il est tombé dans telle et telle chose, parfois dans de l'association, mais il était ignorant de cela. Dans une chose qui emmène la personne à de la mécréance, mais il était ignorant de cette chose-là. Ou alors il avait, comme ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cherchait à savoir s'il était fou, s'il avait bu de l'alcool, s'il était telle et telle, de telle et telle manière. Et regardez, je terminerai sur cela, excusez-moi pour le temps, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée dans le sahih de l'imam al-Bukhari, le hadith qui est rapporté par Abu Dharr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur d'Allah azawajal qui meurt en disant la ilaha illallah, kalimat al-tawhid, la ilaha illallah, sans qu'il rentre au paradis. Et Abu Dharr, de s'étonner de cette parole et de dire wa in zana wa in saraq, et ceci même s'il commet la fornication et il vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: même s'il commet la fornication et il vole. Et Abu Dharr de répéter une deuxième fois, plus une troisième fois: même s'il fait la fornication et il vole. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: même s'il commet la fornication et il vole. Et ceci même si cela déplaît à Abu Dharr. L'importance de At-Tawhid, d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, et de s'écarter de Ash-Shirk, l'association. Et les voies menant à l'association sont nombreuses, ayu al-Ikhwa. Elles sont nombreuses. Et bien souvent, on ne se rend pas compte encore, il n'y a pas très longtemps, un des prieurs ici dans la mosquée est venu me voir après la prière de l'Jumu'ah et me posa la question sur une chose qui rentre dans l'association mineure et qui peut même rentrer dans l'association majeure en fonction de la croyance qui accompagne cette chose-là. Il m'a posé une question sur les amulettes qui sont accrochés dans les voitures, les mains de Fatma, etc. J'ai déjà détaillé cela à de maintes reprises. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a l'habitude de prier avec nous. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ces voies sont des voies qui mènent à l'association. Mais du moment que cette personne-là, qu'une personne apprend à tawhid, à unifier Allah Azza wa Jal, et s'exempte de toutes les voies qui mènent au polythéisme, même si cette personne-là tombe dans des grands péchés comme la fornication, comme le vol, comme le meurtre, bien sûr nous ne cautionnons pas cela, nous rappelons les hadiths et les versets qui montrent l'interdiction et le grand péché de cela, mais à partir du moment où une personne meurt sur la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associer, sans rien ne lui avoir associé au moment de sa mort, cette personne-là est promise au paradis, incha'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous accorde à tous le paradis et qu'il nous préserve du feu de l'enfer. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.